j'ai choisi de vous parler surtout d'un personnage qui est le personnage de Gauvin, qui est un personnage vraiment remarquable, et bon, on verra tous ensemble pourquoi cet après-midi. Donc, je suis un médiéviste ou un apprenti médiéviste, et comme vous disiez, j'étudie les romans arthuriens français, en vers principalement. Et c'est un intérêt de recherche que j'aborde dans une perspective qui est principalement théorique. Et cette perspective m'a poussé, au cours de mon master, à étudier, à utiliser à plusieurs reprises les catégories théoriques et contemporaines des séralités, et en particulier en ce qui concerne l'étude autour de Gauvin, que je vais vous proposer aujourd'hui, la catégorie formulée par Richard Sangelet de la transfictionnalité, qui nous permettra ainsi de traverser plusieurs siècles d'histoire littéraire, du Moyen-Âge arthurien jusqu'aux olipismes contemporains, en particulier aux olipismes de Jacques Roubaud, poète et médiéviste, comme le remarque par ailleurs de critiques dans un ouvrage sorti tout récemment, Nathalie Coble et Mireille Segui, dans Jacques Roubaud médiéviste. Les récents travaux de Thomas Conrad et de Richard Sangelet, que j'ai examinés, ne prennent pas en considération, comme les déclarent par ailleurs les auteurs au début de leurs ouvrages respectifs, l'espace littéraire médiéval. Richard Sangelet, de son côté, reconnaît l'intérêt d'une éventuelle étude à propos de la transfictionnalité dans l'espace littéraire médiéval, mais son corpus de référence, comme vous le savez peut-être, est un autre. Même chose pour Thomas Conrad, qui, tout en mettant à l'écart de son examen la littérature médiévale et en particulier les récits arthuriens, prend une position assez claire dans l'introduction de son ouvrage à propos de la légitimité d'une étude concernant le personnage sériel dans l'espace arthurien. Pour ce chercheur, dont le livre s'attarde sur un créneau temporel qui commence avec Balzac et se termine avec Antoine Volodine, il dit « On rend ainsi parfaitement compte de l'incompatibilité des versions entre elles, mais non de l'unité du monde arthurien, qu'il associe entre parenthèses à la matière des Bretagnes. Il n'y a plus de versions différentes d'un même monde arthurien, mais plusieurs mondes arthuriens séparés. Plus que par des propositions, écrit Conrad, les versions sont rayées par un réseau de noms propres, Arthur, Merlin, Perceval, Gauvin. Autrement dit, à la racine des cycles, nous ne trouvons pas une encyclopédie, mais un index de noms propres. » C'est une lecture qui mérite quand même d'être analysée, que je ne partage pas, et qui semble révéler aussi une attitude assez fréquente chez les théoriciens contemporains. L'attitude à souligner cette altérité du roman médiéval par rapport au roman moderne et contemporain, comme s'il s'agissait vraiment de deux mondes opposés et incomparables. Pourtant, et c'est ce que je cherche à vous montrer aujourd'hui, dans les romans arthuriens aussi, semble émerger, par rapport à la théorie, à la thèse de Conrad, une véritable structure encyclopédique. Les personnages ne se réduisent pas à cause de l'incohérence des réécritures, de la mouvance qui est propre à la littérature médiévale, des apparents défauts aussi produits par la stratification des matières et aussi à cause de la difficulté de la transmission, à un index de noms propres, car derrière chaque nom propre, on peut repérer une essence, un imaginaire, un réseau d'actions et d'épisodes qui ne se déploie pas dans une succession indéfinie de différents monts arthuriens séparés, mais qui se développe, à mon avis, dans une dimension qui est organique. Le monde arthurien est donc, ça c'est sûr, une forêt textuelle. Les branches de ces arbres, malgré les variations et les différences, se développent toujours à l'ombre d'une même tradition qu'il faudrait alors étudier de façon organique. Par ailleurs, il y a aussi une thèse très récente qui a été élaborée par Patrick Morand sur une lecture cyclique de la matière arthurienne. C'est une thèse qui s'attarde en particulier sur le cycle de Lancelot Graal et qui ne prend pas en considération les romans en vers, hein, où il serait à mon avis intéressant de s'attarder, et, car il y a des éléments qui méritent notre attention. À mon sens, en fait, et je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un qui s'est intéressé récemment à la matière médiévale, je l'espère, mais peu de travaux ont été réalisés dans les dernières années autour d'une éventuelle lecture transfictionnelle ou cyclique de l'espace arthurien en vers, donc en particulier de Chrétien de Troyes et des continuateurs en vers dès la fin du XIIe et du début du XIIIe, car il faudrait quand même l'entamer Et il faudrait aussi étendre ces réflexions jusqu'à un roman en vers tardif, très intéressant, construit autour du personnage de Gauvin, neveu du roi, c'est-à-dire l'âtre Périeux, qui date de la première moitié du XIIIe siècle, donc à une époque où la prose cyclique est déjà à son apogée, et qui se configure comme un récit indépendant et autonome, donc à une époque un peu différente où le roman en vers n'est plus pratiqué. Alors cette étude, une étude à travers ces catégories, serait à mon avis très important dans un espace littéraire qui donc se caractérise par sa mouvance et qui s'exprime dans l'élaboration arborescente, on pourrait dire, donc non cohérente ni établie précédemment, réécriture après réécriture, stratification après stratification d'une sérialité possible dont on va étudier l'un des avatars qui, à mon sens, sont les plus intéressants. Donc vous voyez que c'est vraiment un travail complexe. On a des prémices qui sont différentes, on est dans un espace différent, mais malgré cette altérité constitutive, il y a des traits qui peuvent nous permettre de réfléchir aussi avec des catégories contemporaines. La question essentielle que je me pose, et c'est une recherche encore en cours, et c'est pour moi une belle occasion d'être ici aussi pour me confronter à des chercheurs qui s'occupent de ces réalités dans l'espace plutôt contemporain, dans les cinémas, donc je pense que ça peut m'enrichir et ouvrir aussi ma lecture. La question que je me pose, je disais, est la suivante. Est-ce que Gauvin peut être le personnage à travers lequel étudier la sérialité et ses dispositifs dans les romans arthuriens et aussi dans les réécritures postérieures, car on va arriver jusqu'à l'époque contemporaine avec Robot. Dans un premier temps, je vais vous proposer une lecture sur la sérialité de Gauvin dans les romans arthuriens en vers. Et dans un deuxième temps, on va réfléchir aux transformations contemporaines de Florence Délé et Jacques Roubaud, en particulier à Graal Fiction et Graal Théâtre, toujours dans cette perspective de la perspective de réflexion sur la sérialité du personnage. Gauvin, donc. Dans la grande variété de personnages qui apparaissent dans la matière arthurienne, on peut remarquer trois personnages qui sont presque omniprésents, comme le disait Kate Boothby, qui semblent en quelque sorte aussi structurer les romans du cycle. Et je parle de cycle en sens global, sans m'interdire d'étendre ces mots au roman en vers. Donc il s'agit d'Arthur, le roi, bien évidemment, de son neveu Gauvin, dont je vous ai mis une image tirée de Perceval les Gaulois d'Éric Rohmer, et de Queux le Sénéchal, qui incarne dans plusieurs textes des attitudes et des valeurs parfois antithétiques. La présence de ces trois figures dans l'immense majorité des romans arthuriens illustre leur importance dans le champ littéraire, mais aussi dans l'imaginaire collectif au Moyen-Âge, un imaginaire qui pourra trouver une expression même à l'intérieur de la diégèse, comme on peut voir notamment dans la première continuation du conte du Graal, appelée continuation Gauvin, où ce dernier semble prendre les traits du personnage de roman au sein même de la diégèse, dans l'épisode de la demoiselle de la tante, où la demoiselle possède son portrait, le portrait du chevalier, ce qui nous montre aussi un autre type de sérialité possible qui se manifeste à l'intérieur de la diégèse lorsque Gauvin est connu et reconnu par d'autres personnages. Alors, Gauvin trouve une place remarquable dans les romans en prose et en vers du Moyen-Âge arthurien, mais malgré sa présence constante et continue, Gaston Paris observe à la fin du XIXe siècle un élément qui semble le caractériser. Il dit « Il est le modèle accompli de toutes les perfections chevaleresques, et par là même, étant passé à l'état des types, il est un peu dépourvu d'individualité. Aussi n'a-t-il pas proprement de biographie, et dans les nombreux poèmes épisodiques dont il est le héros, lui attribue-t-on plus d'une aventure qui ailleurs rapportée. » Cette lecture est très intéressante, cette lecture d'un philologue qui s'est intéressé à la littérature française médiévale sera reprise aussi de façon ironique et dialectique par Roubaud dans les Graal Fiction. C'est une lecture, bien sûr, un peu partielle, car Gauvin n'est pas vraiment, déjà dans les premiers romans arthuriens, un modèle accompli de perfection chevaleresque. Mais la première traversée qui est effectuée dans mon analyse de l'élément transfictionnel du personnage est celle qui est propre de l'époque médiévale, de l'oralité à l'écriture. Gauvin est déjà un personnage en perte, un personnage qui risque de disparaître. Et le passage de la forme orale, de la transmission orale à la forme écrite, empêche cette disparition. Marie de France, dans le prologue de Sellet, est bien consciente de sa tâche de transmission et de son rôle dans la communauté littéraire de son époque, et dit que par un membrance le firent, des aventures qui l'oïrent, qu'il prime le commencir et qui avant les envirent. Plusieurs en aïoï comptèrent, et n'esvoy les siennes oubliées, écrit la Marie de France au milieu du XIIe siècle. Cette traversée, qui est aussi une forme de survivance à l'oubli, et a pour Marie de France des implications théoriques et d'une survivance graphique. La sérénité du personnage transfuge des Gauvins est rendue possible seulement à travers ce passage qui prend à la fois la forme d'un sauvetage et celle d'une perte inévitable. Et malgré les lectures très novatrices de quelques romanistes contemporains qui donnent un large espace à la question de l'oralité dans leurs analyses de la matière médiévale de ce personnage, on ne peut pas retrouver avec certitude l'origine, le point de départ de cette transmission et la naissance de ce personnage. La naissance dans l'oralité qui est le début d'une transmission bien plus vaste. Si on veut dresser une préhistoire de Gauvin, il est aussi peut-être utile de lire un ouvrage très intéressant pour les médiévistes de la philosophe Judith Schlangler qui dit que la mémoire des œuvres est une mémoire héroïque. Elle a besoin des noms, nombre de personnes ou nombre d'œuvres. Il lui faut des instances personnelles, des références particulières et des figures. Il semble que l'autorité culturelle, écrit Schlangler, symbolique, soit naturellement nominative. Cette instance personnelle de Gauvin se manifeste alors à travers des noms différents qui renvoient à un unique imaginaire construit autour de ce personnage. Qu'il s'agisse de Gwalchmai de la tradition celtique, de Valvanus des chroniques ou du Gauvin des romans arthuriens, cette liste des noms, variante graphique d'une forme originaire, dresse les différentes interprétations d'un seul personnage encyclopédique dans plusieurs traditions parallèles qui construisent une sérialité multiforme mais toujours organique. On est en quelque sorte face à un nouveau type de sérialité, une sérialité en perte dont on peut repérer des traces, mais qui se construit en absence. La traversée a lieu, la transmission aussi, mais le point de départ a disparu et le devoir du philologue est, comme le dirait Agamben, celui de discerner au fond de l'oubli les éclats de lumière noire émanés par le personnage. Cette trace mémorielle se manifeste aussi dans la monumentalisation de Gauvin que l'on peut observer dans les premières chroniques arthuriennes en langue latine. La construction sérielle de Gauvin se manifeste ici de façon très originale. Dans les chroniques arthuriennes, Chevatz et dans les premiers romans des Chrétiens de Troyes, Gauvin est un monument statique, dépourvu d'individualité, pour reprendre la formule du grand philologue. On lui associe des formules fixes qui semblent reprendre celles d'une chronique de Guillaume de Malmesbury, Miles virtutes nominatissimus, et qui est reprise et mise en roman par Watts et par Chrétien postérieurement. Il faut remarquer que dans le roman des Chrétiens de Troyes, Gauvin est aussi le protagoniste d'une évolution qui ne transforme pas radicalement sa nature, mais qui annonce un détournement de perspective, un nouveau regard. On passe alors, chez Chrétien, du personnage hypostasié, fixé dans son rôle narratif, tel qu'il est dans le Cligès et dans Zérakénide, les deux premiers romans des Chrétiens, qui semble simplement reprendre et traduire les formules des chroniques du XIIe, un personnage qui, sans sortir de son rôle, traverse une zone d'ombre. Chrétien, pour premier, pousse sa réflexion vers une introspection qui nous fait pénétrer dans l'individualité du personnage, qui nous interroge sur sa véritable nature et qui remet en question l'imaginaire que l'on s'était construit autour de lui. Donc, chez Chrétien et ses continuateurs envers, la sérialité, la construction sérielle du personnage de Gauvin semble se manifester à travers deux dispositifs principaux que je vais vous présenter. Les premiers et le dispositif, disons, d'un certain noircissement progressif du personnage, dont le développement sériel au plan de la fiction semble correspondre aussi à la déconstruction de son identité. Une déconstruction qui vise à mettre en question radicalement la formule qui l'accompagne, cette formule statique, et qui est renversée déjà dans Le Cheval et la Charrette, le troisième roman de Chrétien de Troyes. Notamment dans l'épisode du pont sous l'eau, qui est un très bon exemple de ces noircissements, et qui sert aussi à construire un parallèle entre le personnage de Gauvin et les personnages de Lancelot, que vous voyez dans l'épisode du pont de l'épée, dans une enluminure du Chevalier de la Charrette. Donc, un premier doute à propos de la primauté de ce soleil de la chevalerie, comme il est défini dans Le Chevalier au Lion, semble être introduit par Chrétien qui multiplie les doutes à propos de Gauvin. Et écrit, Chrétien, dans Le Chevalier de la Charrette, « Et tantôt qu'il vienne au pont, on Monseigneur Gauvin vu, del pont trabuché et chéhu, donc est tombé, dans l'eau qui était très profonde. Il ne pense pas qu'il soit en vie, ils l'ont tiré de l'eau de façon très, très rapide, car il avait bu beaucoup d'eau. » Donc les hommes de Lancelot se trouvent face à un Gauvin en grande difficulté. Le chevalier qui aurait dû les aider à retrouver Lancelot semble être mort, un écuyer de pas qui le vive, dépourvu aussi de son auberque et de son home, donc de son home, épuisé, souffrant dans l'épreuve du passage par le pont sous l'eau. Gauvin est peint dans ce passage sous une lumière profondément humaine. C'est sur son humanité, en fait, que Chrétien met l'accent en montrant, à travers une scène qui possède aussi des traits comiques, que le soleil de la chevalerie est un chevalier comme les autres, soumis à des défaillances. Ces défaillances émergent aussi à d'autres moments du roman, mais trouvent une expression encore plus remarquable dans la première continuation du conte du Graal et dans les ouvrages des Raoul de Houdan, que notamment La Vengeance sur Agliel, qui date de la première moitié du XIIIe siècle. La Vengeance Radigdel est un autre exemple qui nous permet d'observer comment le développement de Gauvin dans la sérité produit un noircissement de ses traits moraux et de son identité. Dans ce texte, pour la première fois, dans l'espace arthurien, Gauvin est le héros, le personnage qui garantit l'unité des trois fils narratifs qui se dégagent dans l'histoire. Je vous épargne la disjoncture, d'une certaine façon, de cet ouvrage. Et dans ces épisodes, il y a un premier exemple des défaillances de Gauvin qui s'oppose à sa nature, à son modèle, au modèle du meilleur chevalier du monde, et qui est repérable au début de la Vengeance, lorsqu'Arthur trouve le cadavre du chevalier et lit dans une lettre comment accomplir sa vengeance. Selon les indications contenues dans la lettre, on aurait dû le venger en utilisant le tronçon qui était planté dans sa poitrine, mais Gauvin part à l'aventure pour le venger et oublie le tronçon de sa lance, un élément nécessaire pour accomplir cette vengeance. Gauvin arrive finalement à récupérer la lance, mais le fait qu'il ait oublié reste également l'élément qui caractérise aussi le développement de l'aventure. Il est le seul chevalier qui puisse extraire les tronçons du corps du chevalier, mais il oublie l'objet central pour réaliser son objectif final. Dans ce même roman, l'épisode de la demoiselle d'Hugo de Troyes nous fait mettre en évidence aussi le deuxième aspect, le deuxième dispositif qui est utilisé pour la déconstruction du personnage, c'est-à-dire la mise en question du nom et du renom, qui est aussi au centre des lattes périlleux que je vous ai évoqué auparavant. Dans cet épisode, celui de la demoiselle d'Hugo de Troyes, Gauvin arrive dans un château où une jeune fille reconnaît, lui dit que sa vie est en danger. Le château est habité par une demoiselle qui veut le tuer, et s'il veut sauver sa vie, il doit absolument se cacher et lui cacher surtout sa véritable identité. Cette obligation met en question la caractéristique typique de Gauvin, c'est-à-dire le fait qu'il ne cache jamais son nom lorsqu'on lui demande. L'obligation d'admettre toujours sa propre identité, que l'on retrouve partout dans les romans des chrétiens, dans Ivan et dans le conte du Graal, est un trait du personnage qui se préserve toujours dans son développement sériel au long des réécritures et des stratifications, et prend la forme très souvent d'une véritable obligation morale. Il ne peut jamais cacher son nom, car le faire mettrait en question sa nature courtoise, son identité et son nom, son identité en tant que Gauvin. Comme on en découvrira dans la suite de l'épisode, la demoiselle d'Hugo de Troyes éprouve pour Gauvin des sentiments très controversés, veut le tuer et en même temps l'aime. Et grâce à la ruse d'une servante, la survie de Gauvin passe par un détournement d'identité assez frappant. Il déclare dès le début être que les sénéchals, donc l'anti-Gauvin par excellence, démesuré, intrinsèquement anti-héroïque, comme on peut observer à plusieurs reprises dans les romans de Chrétien et dans les continuations, jusqu'aux réécritures rubaldiennes, où que conserve toujours ses traits topiques. Même si Gauvin déclare toujours son nom lorsqu'on lui demande, dans ce cas, il préfère éviter le risque de tuer et déviant que. Mais alors, qui est Gauvin, le chevalier qui déclare toujours son identité lorsqu'on lui demande? Il est, même si seulement pour un temps limité, devenu que, et son privilège, ses qualités mythiques, sa nature de modèle, semble être destiné à disparaître vers une substantielle démythification du personnage, vers la construction d'un anti-héros, qui passe dans ce cas par un changement d'identité. Les sentiers de la transfiction semblent nous faire entrer dans un territoire inexploré et nouveau, car l'énoircissement ne se produit pas seulement à travers une mise en scène des défaillances du chevalier, mais aussi à travers d'autres procédés, notamment cet échange d'identité qui caractérise cette partie de la vengeance Radigdel de Raoul de Houdan, mais aussi dans l'âtre périlleux, lorsqu'il perd son nom. Tout le roman se développe autour de la recherche, de la quête pour le nom perdu. Cet épisode de la demoiselle d'Hugo de Troyes est également l'objet de la réécriture de Roubaud d'un Graal fiction. Le Graal fiction a été défini comme une fiction théorique qui unit des éléments fictionnels à des réflexions critiques et théoriques. Et c'est un ouvrage qui date des années 70 du XXe siècle. Et dans cette œuvre, Jacques Roubaud, qui est membre de l'Oulipo, décide d'insérer l'épisode de la demoiselle de Godétroy dans la section consacrée au personnage de Gauvin, qui occupe la partie centrale du livre. Dans ce chapitre, l'auteur cherche à mettre en évidence la primauté des Gauvins dans le domaine de l'amour, et en général dans le domaine des armes, et il utilise plusieurs exemples, épisodes qui confirment, disons, la nature de modèle des Gauvins, mais souvent ces épisodes vont dans une direction assez différente et produisent des effets ironiques ou parodiques qui déconstruisent encore plusieurs siècles après les écritures arthuriennes ce personnage. Dans le cas de la demoiselle de Godétroy, la réécriture se construit encore une fois sur un détournement de sens, une nuance ironique et parodique. En premier lieu, Gauvin fait entrer dans son discours un axiome qui lui est associé par Roubaud. Et en second lieu, la demoiselle de Godétroy déviant dans ce développement transfictionnel la demoiselle du Buisson étroit, un changement de nom qui semble impliquer un glissement des sens. Les buissons étroits du Graal Théâtre doivent être associés et du graphicien doit être associé au sexe de la femme et aussi à la pratique de l'évération qui évoquait en marge par l'image de la guillotine. La demoiselle du Buisson étroit en fait apparaît aussi dans Graal Théâtre qui commence à être rédigé à la fin des années 70, à une époque où il y a un certain intérêt envers le Moyen-Âge, comme on peut voir dans l'image du film de Romère. C'est un ouvrage que Roubaud a écrit avec Florence Delay, et Roubaud et Delay consacrent à Gauvin une entière section de cette œuvre. Gauvin et les Chevaliers Verts, un titre qui reprend un roman anglais du XIVe siècle et qui est l'une des sources de cette réécriture. La demoiselle du Buisson étroit apparaît, disons, elle est un peu modifiée, garde toujours sa veine parodique et se détache en partie de son modèle de départ. Et c'est très intéressant de voir que dans la réécriture de Roubaud et Delay, il y a un jeu très fort sur la construction de l'identité de Gauvin, mais c'est un jeu que l'on repère déjà dans la réécriture médiévale. On a toujours l'impression que les auteurs médiévaux, ces réécrivains médiévaux, utilisent le modèle de Gauvin, le déforment, le détournent, en l'utilisant comme modèle sériel, mais en proposant toujours un autre modèle de chevalier qui, d'une certaine façon, nie sa propre identité originaire. La même chose est pratiquée dans l'espace littéraire contemporain par Roubaud et Delay. Et cet élément est présent tout au long du Graal Fiction et du Graal Théâtre, notamment à travers plusieurs dispositifs. Vraiment, la réécriture monumentale du Graal Théâtre qui traverse plusieurs décennies jusqu'au milieu des années 2000, qui commence dans les années 70, et le cahier de charges qui annaît en quelque sorte le Graal Fiction, sont des réécritures qui travaillent cette matière de départ et qui utilisent le personnage de Gauvin d'une certaine façon comme modèle et comme antimodèle à travers lequel construire et penser la sérialité et le dispositif de la réécriture de cet espace et de cet univers arthurien. Dans une première partie, j'ai mis en avant quelques aspects pour chercher à vous montrer l'évolution de Gauvin dans l'espace littéraire médiéval. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai pris en examen seulement le roman en vers, car je trouve que les romans en vers sont déjà un point de départ important pour noter que le développement sériel de Gauvin passe toujours par une mise en question de ce modèle, par une mise en question qui passe par le noircissement pour un travail sur le nom et les renoms qui sont souvent détournés. Dans les réécritures contemporaines, ce personnage est un personnage qui, d'une certaine façon, est modifié, qui est réécrit à travers une instance parodique très poussée. Et je vous invite vraiment à découvrir l'univers du Graal qui a été reproduit à travers la démarche aussi oulipienne et combinatoire par Roubaud et par Florence Delay. La chose qui est intéressante est que cette réécriture n'est pas la seule dans l'espace contemporain. Donc la matière médiévale peut trouver une nouvelle vie dans la deuxième partie du XXe siècle lorsqu'il y a un intérêt très fort envers cette trace médiévale qui traverse plusieurs écrivains d'aujourd'hui. Je vous ai cité Roubaud et Delay, mais il y en a aussi d'autres, je pense notamment à Julien Gracq. Donc il y a vraiment la volonté de faire revivre un univers à travers les dynamiques qui sont les dynamiques de la sérialité. Pour conclure, Il y a une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est une phrase de Sophie Rabault qui dit que le texte présent réinvente son passé, mais le texte passé, inversement, n'inventerait-il pas son futur ? Chaque texte porte en lui une trace, la trace, en tout cas la possibilité de son destin intertextuel. Chaque texte littéraire contient du matière plus ou moins forte, des textes en puissance qui attendent d'autres auteurs pour être développés. Le texte médiéval a, à l'intérieur de soi-même, des textes en puissance qui attendent d'autres auteurs pour être développés. On peut remarquer ça dans cette trace disparue de l'oralité, qui aura d'autres auteurs au Moyen-Âge pour être réécrite dans la stratification et dans la construction d'une sérialité extrêmement poussée. Mais ce texte au futur, qui est déjà d'une certaine façon présent dans le texte passé, est bien évident dans les réécritures de Roubaud et de Delay, qui, à l'époque contemporaine, cherchent à réfléchir sur l'espace littéraire médiéval pour lui donner un nouveau souffle, une nouvelle vie qui sorte en quelque sorte de l'altérité qui serait propre de l'espace littéraire médiéval, de la matière médiévale, pour faire entrer, à travers les dispositifs de la sérialité et aussi à travers un jeu important d'anachronisme, le texte médiéval dans l'espace littéraire contemporain. À mon avis, c'est un mouvement important. Il faudrait, d'une certaine façon aussi, comme médiéviste, sortir en quelque sorte des recherches un peu autoréférentielles sur le texte médiéval dans son individualité, sur, disons aussi, des recherches qui visent à aller dans le détail des manuscrits et des recherches très, très précises sur les reconstructions philologiques pour réfléchir aussi de façon encore plus solide et fréquente à la question de la survivance, de la résurgence d'un motif médiéval. Le personnage de Gauvin est un instrument pour penser cette résurgence et aussi pour penser les développements sériels, car il est très différent des autres. Et cette différence des Gauvin est une différence qui l'accompagne toujours jusqu'au contemporain, qui brise les limites temporelles et qui trouve aujourd'hui une nouvelle vie qui s'exprime toujours dans la sérialité et dans sa nature qui est vraiment une nature arborescente et fugitive. Merci.